évoquez dans votre ouvrage, Daniel Salvatore Schiffer. Alors avant de nous intéresser à l'usage du purgatoire dans l'œuvre de Dante, on va revenir au contexte historique et religieux qui a vu naître cette idée de purgatoire. Ça vient d'où ?
Oui, mais ça c'est un dogme essentiellement catholique. Le purgatoire n'existe pas ni dans l'Ancien et encore moins dans le Nouveau Testament. Dans les Saintes Écritures, le purgatoire n'existe pas. C'est un concept qui vient du catholicisme, c'est un dogme catholique, c'est un dogme papal, qui vient bien sûr du Moyen-Âge, comme l'étaient les indulgences aussi, mais qui dans les Saintes Écritures, dans ce qu'on appelle la Bible, Biblos en grec, c'est-à-dire le livre des livres, n'existe pas. Et donc Dante, qui reste malgré tout, malgré sa modernité, qui reste quand même un homme du Moyen-Âge, forcément, il parle du purgatoire, qui est ce stade intermédiaire qui lie l'enfer au paradis. Le purgatoire est ce lieu qui permet le passage de l'enfer au paradis, au-delà de sa connotation religieuse, si vous voulez. Ça fait partie du processus psychologique où l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, se déshabille, se libère du joug, du poids du péché, de la faute, pour accéder à une béatitude, au sens de béatrice, comme je l'ai dit, c'est-à-dire bienheureux. Par exemple, les papes, aujourd'hui, avant de canoniser, ils béatifient. On l'appelle le bienheureux. Et donc, on appelle ces gens-là les bienheureux. Et bien, donc, Dante, il explique tout ça. Simplement, au lieu de rester dans la sphère purement religieuse, il transpose l'idée du purgatoire, qui est un concept donc religieux, ou en tout cas catholique plus spécifiquement, au niveau poétique et littéraire. Et là aussi, il rend humain, trop humain, comme dirait Nietzsche, un concept qui d'abord est religieux, il en fait un concept poétique et littéraire. C'est aussi là qu'est sa grandeur.
En fait, c'est aussi l'endroit où se séparent les pouvoirs. Même, on peut revoir ça aussi du...
Oui, bien sûr.
Avoir une vision politique.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout chez Dante est sujet à interprétation. Alors, vous parlez de la modernité. Jacqueline Risset, qui a magistralement bien traduit la Divine Comédie, c'est d'ailleurs sur elle que je m'appuie pour la traduction, même si je lis Dante en italien, bien sûr, puisque je suis moi-même aussi... en partie italien, par mon père, Jacqueline Risset a raison de parler de la modernité de Dante. Elle a raison de parler de Joyce. Nous avons parlé au début de Borges. Nous pourrions parler de Umberto Eco, qui a beaucoup consacré de pages à Dante, et même un roman comme Le Nom de la Rose, il a quelque part à voir avec l'enfer de Dante. Mais jusqu'à Albert Camus, la chute d'Albert Camus fait référence nommément à l'enfer de Dante. Lorsque Albert Camus écrit La Chute, il y a ce juge pénitent, Jean-Baptiste Clamence, qui est à Amsterdam, pour expier sa faute, c'est le purgatoire. Il dit, voilà, Amsterdam, la ville des canaux concentriques, les 9 canaux concentriques, ce sont les canaux de l'enfer de Dante. C'est Camus qui le fait dire à Clamence dans La Chute. Voilà un autre lien de modernité entre Dante et la littérature moderne, et même existentialiste, puisque Camus est un existentialiste.
Et le paradis, pour Dante, c'est la région de l'intelligence, où l'intelligence peut s'exprimer,
oui.
Où la pensée peut s'exprimer.
Oui, c'est ça. C'est en cela qu'il reste platonicien. C'est la plus haute sphère de la contemplation, mais pas seulement et pas religieuse, mais de la contemplation intellectuelle. Mmh. C'est l'intellect, exactement comme le cortex est la partie supérieure du cerveau. Donc, c'est une vision idéal et idéalisé au sens le plus littéral du terme, puisque l'idéalisme vient du concept eidos en grec, qui veut dire la vision de l'esprit. C'est l'œil de l'esprit. C'est l'œil de l'esprit. Ça, l'idéalisme. C'est ça, l'idée dans l'Antiquité grecque. C'est l'œil de l'esprit. C'est une vision de l'esprit. D'où le premier titre que Dante avait donné à son livre, La Vision. Et c'est très, très bien représenté, magnifiquement bien représenté par notamment un illustrateur qui est Gustave Doré, qui a illustré les 100 chants. Il y en a 100. Les 100 chants de la Divine Comédie et l'Empyrée est très bien décrit par Gustave Doré lorsque Béatrice et Dante contemplent cette vision sublime du paradis qu'on appelle l'Empyrée. C'est très bien représenté par Gustave Doré au XIXe siècle, tandis qu'à la Renaissance, quelqu'un comme Botticelli, par exemple, a surtout représenté l'enfer.
Alors là, la coexistence, on l'a compris, du bien et du mal, est très présente dans l'œuvre de Dante. Ce sont des deux sempiternelles pulsions, écrivez-vous, qui définissent l'humanité. Et vous faites un parallèle avec, alors là on revient un petit peu en arrière, avant Camus, etc., avec les romantiques,
avec
Baudelaire
les romantiques.
Notamment.
Oui, Baudelaire.
Même si les conclusions sont différentes.
Oui, Baudelaire qui, dans Mon cœur mis à nu, qui est un de ses deux journaux intimes, puisqu'il y a Fusée au pluriel et Mon cœur mis à nu, écrit en 1863 pour l'exactitude, Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu, dit ceci: « Il y a dans tout homme à toute heure deux postulations simultanées. L'une, invocation à Dieu ou spiritualité est une joie de monter en grade. L'autre, invocation à Satan ou animalité est une joie de descendre. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les sphères apolliniennes, pour parler en termes modernes et en termes romantiques, qui puisent leur notion chez les Grecs, les sphères apolliniennes, qui est une élévation vers la transcendance, vers les sphères célestes, Apollon, et puis les sphères dionysiaques, qui est une attirance vers les sphères terrestres, vers les soubassements de l'humanité, ce qu'il y a de plus tourmenté, hein, et c'est ce qui définit d'ailleurs, prenez un titre comme « Les fleurs du mal » de Baudelaire, où on a à la fois la fleur et le mal. Et tout cela dérive aussi du romantisme, bien sûr, où il y a à la fois où le bien et le mal, l'ange et le démon se côtoient de manière perpétuelle sans que l'un l'emporte sur l'autre. C'est toute la problématique du Faust de Goethe, par exemple. Donc tout le romantisme est imprégné de Dante et de ce lien qu'est le purgatoire. Pour moi, c'est peut-être le plus beau, la plus belle des trois parties, en tout cas la plus complexe et la plus humaine. C'est ce lien entre l'enfer et le paradis, c'est-à-dire entre le bien et le mal, entre le beau et le laid. On sort du manichéisme, on sort d'une vision purement binaire pour entrer dans une troisième dimension qui est vraiment l'humanité dans sa profondeur, où il y a à la fois du bien et du mal, du beau et du laid, du divin et du satanique, du diabolique.
Et pour Dante, c'est le mauvais gouvernement qui rend le monde méchant.
Oui, oui, c'est-à-dire que la politique pervertit l'homme davantage encore. Il ne dit pas nécessairement que l'homme est bon par nature. Hein, c'est pas Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Il ne croit pas au mythe du bon sauvage. Il dit simplement que bien sûr que les hommes ne sont ni bons ni mauvais, mais la politique, les intérêts particuliers, l'égoïsme, l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général, tout ça génère au sein de la société le mal. Et d'où, effectivement, c'est aussi pour cela que le dogme catholique a inventé le purgatoire, c'est une espèce de rédemption. Une espèce de rédemption, eh bien, cette rédemption, Dante l'applique en littérature, et ce qui est très très moderne, parce que c'est l'essence même du romantisme.
Et le purgatoire, ça pourrait être un autre nom pour une notion très moderne aussi, et ben déjà chez Freud, la résilience.
La résilience, exactement, la résilience. La résilience, c'est ce qui permet justement de surmonter, de transcender le sublime, c'est-à-dire la limite. En termes modernes, on appelle ça la résilience. Boris Cyrulnik, aujourd'hui, en parle très bien, par exemple. C'est exactement ça. D'ailleurs, je pense que je le dis dans mon livre, en termes modernes, en psychanalyse moderne, ça s'appelle la résilience. Surmonter sa frayeur, surmonter sa peur, surmonter son handicap, qu'il soit physique ou psychologique, surmonter ses angoisses pour créer, c'est le principe de la création artistique, dont parlait déjà Aristote, mais sans employer le mot résilience, c'est ce qu'il appelait la catharsis, c'est-à-dire que l'art sert à transcender vos pulsions de mort, vos angoisses, vos frayeurs, et en même temps vous créez, vous inventez, donc vous êtes gagnant à tous les coups.
D'autres esprits illustres encore feront référence à Dante, le moindre n'étant pas Galilée, qui a, avec Copernic, enfin comme Copernic, placer le soleil au centre de l'univers, ce qui à l'époque, évidemment, en 1642, il est mort en 1642, va provoquer un sacré bazar. Nous sommes avec Daniel Salvatore Schiffer.
Je crois que Dante, dans son projet de totalisation, essaye de vivre complètement cette situation extrêmement vaste qui est celle de l'écriture d'un livre qui résumerait et qui serait la totalisation de tous les livres au moment où ils se placent. Bien entendu, ça va donner, à l'époque de Dante, un certain type d'œuvre qui aura trait à une certaine mythologie qui n'est plus la nôtre, bien entendu, qui est sensiblement morte et déplacée. Mais enfin, je crois qu'il faut se tenir à ce projet extrêmement radical de totalisation du langage et du livre pour saisir dans son entier l'œuvre de Dante et la manière dont il va vivre ce livre, n'est-ce pas, en tant que sujet.
Un jour dans l'histoire.
Sur la première.
Voilà, c'est Philippe Sellers ici en 1965 à propos de Dante, qui a une donc grande influence sur son œuvre. Revenons quelques siècles auparavant avec ce mathématicien, physicien, astronome italien, Galilée, donc, qui va défendre au tournant des 16e et 17e siècles l'approche copernicienne de l'univers, qui propose donc l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil étant le centre de l'univers, ce qui est en contradiction avec l'idée défendue par Aristote, notamment d'une Terre immobile au centre de l'univers. Ça va faire scandale. Galilée, lui aussi, s'intéresse à l'œuvre de Dante. Qu'est-ce qu'il y cherche et comment l'explique-t-il?
Alors voilà. Alors effectivement, j'ai parlé tout à l'heure du passage de du théocentrisme à l'anthropocentrisme. Ça, c'est la première caractéristique de la Renaissance. La deuxième caractéristique, c'est c'est le fait que le soleil soit au centre du monde et que la Terre tourne autour. Donc là, c'est l'héliocentrisme. Hein. C'est le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Et ce que cherche Galilée dans Dante, c'est un petit peu la confirmation, alors que Dante a écrit 2 à 3 siècles avant, de ses propres théories. En fait, un texte très peu connu, encore une fois, de Galilée, qui sont des leçons qu'il a fait sur Dante. Moi, j'ai le livre, qui est un livre assez rare à se procurer. Ça s'appelle « Deux leçons sur l'enfer de Dante ». Et là, Galilée, tout en lisant l'enfer de Dante, essaie de trouver les proportions, les distances, presque le kilométrage très précis en termes mathématiques et géométriques de l'enfer de Dante. Il essaie de reconstituer mentalement, mathématiquement, d'après sa lecture de Dante, l'enfer de Dante. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que là, il y a une application sur le plan astronomique, sur le plan physique et astrophysique de l'enfer de Dante. Ça, c'était absolument extraordinaire. Et la lecture que fait Galilée de Dante, il a fait ça dans l'Académie florentine à l'époque, en pleine Renaissance, ça donne encore une fois l'importance de Dante et de voir à quel point il y a ce que j'appelle cette constellation Dante, c'est le titre de mon livre, c'est-à-dire que Dante est une espèce d'astre, d'étoile autour duquel, astre, gravite toute une constellation d'écrivains, de poètes, de musiciens, depuis Dante jusqu'encore aujourd'hui.
Jusqu'au pop art, même.
Jusqu'au pop art, oui. Robert Rauschenberg, qui est un des maîtres du pop art avec Liechtenstein et surtout Andy Warhol, eh bien, Rauschenberg, par exemple, a consacré toute une série de dessins à l'enfer de Dante. Ce sont des dessins absolument magnifiques, mais avant Rauschenberg, dans le monde anglo-saxon, il y a eu William Blake, par exemple, qui a aussi illustré tout l'enfer de Dante, et pas seulement l'enfer, mais la Divine Comédie. Donc, dans les arts aussi, tout à l'heure, vous avez cité, nous avons écouté un extrait d'un poème de Victor Hugo sur une musique de Franz Liszt. Nous avons parlé du romantisme, et bien dans le romantisme musical, Franz Liszt fait une Dante symphonie, une symphonie consacrée à Dante. Il fait lecture après Dante dans les années de pèlerinage. Ça, c'est une page de partition pour piano seul. Berlioz, Tchaïkovski, tout le romantisme se réclame de Dante. Et singulièrement de l'enfer, parce que c'est le plus fort et le plus connu.
On peut écouter là quelques notes justement de cette symphonie de Franz Liszt, l'enfer, hein, c'est ça?
Oui, c'est la Dante symphonie, l'enfer. Oui.
Voilà, pour terminer. Dans votre ouvrage, Daniel Salvatore Schiffer, vous commencez en évoquant la Divine Comédie par le paradis. Donc vous faites le chemin inverse à celui de Dante. Pourquoi?
Mais parce que d'abord, le paradis est ce qui illustre le mieux ce que j'appelle le sublime. Hein, puisque le sublime est une transcendance, c'est une élévation, c'est une montée, c'est un dépassement. Aufhebung, dit-on en philosophie allemande, c'est un dépassement de la souffrance, de ce qu'il y a de pire dans l'homme, pour accéder à une espèce de béatitude et de bonheur et de joie. Donc je commence effectivement par le sublime. Et puis il faut pas oublier que c'est concentrique. Je veux dire que c'est un cheminement concentrique. Tout est concentrique chez Dante. Il y a les cercles de l'enfer, ils sont 9. Il y a les gradins du purgatoire, ils sont 7. Et puis il y a les sphères célestes. Tout est concentrique. Donc en fait, commencer par le sublime, commencer par le paradis, est une manière de dire que la Divine Comédie, effectivement, est un livre total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un éternel recommencement. Et nous avons entendu avant Philippe Solers qui parlait de livre total. Il y a en philosophie, il y a un livre qui s'en rapproche, mais sur le plan purement philosophique, c'est la Phénoménologie de l'esprit de Hegel, qui est un philosophe, c'est même le maître du romantisme en philosophie. Et nous avons une vision totalisante à la fois de l'homme, du monde et de l'univers. Et donc, c'est à quel point Dante est romantique au sens le plus profond du terme.
Voilà, la constellation Dante, le chant du sublime, c'est votre ouvrage qui est paru aux éditions Éric Brognier, Daniel Salvatore Schiffer. Je signale également la parution début décembre, d'un autre album sur le sublime, d'un autre ouvrage sur le sublime aux éditions Samsa. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore une fois aujourd'hui, Daniel Salvatore Schiffer.
Merci infiniment.